Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans notre voyage, à travers différents textes, poèmes et extraits de romans, entre autres, je vous propose aujourd'hui une petite pause autour d'un thème qui pourrait être celui de saltimbanque, comédien, théâtre, etc. Et tout d'abord un très court texte de Guillaume Apollinaire, Saltimbanque. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin ils lui font signe. Ils ont des pois ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Extrait du chapitre premier d'un roman de Scarron de 1651, intitulé « Le roman comique ». Une troupe de comédiens arrive dans la ville du Mans. Le soleil avait achevé plus de la moitié de sa course et son char, ayant attrapé le penchant du monde, roulait plus vite qu'il ne voulait. Si ses chevaux eussent voulu profiter de la pente du chemin, ils eussent achevé ce qui restait du jour en moins d'un demi-quart d'heure. Mais au lieu de tirer de toute leur force, ils ne s'amusaient qu'à faire des courbettes, respirant un air marin qui les faisait hennir et les avertissait que la mer était proche, où l'on dit que leur maître se couche toutes les nuits. Pour parler plus humainement et plus intelligemment, il était entre 5 et 6 heures quand une charrette entra dans les halles du Mans. Cette charrette était attelée de 4 bœufs fort maigres, conduits par une jument poulinière dont le poulain allait et venait à l'entour de la charrette comme un petit fou qu'il était. La charrette était pleine de coffres, de malles et de gros paquets de toile peinte qui faisaient comme une pyramide au haut de laquelle paraissait une demoiselle habillée, moitié ville, moitié campagne. Un jeune homme aussi pauvre d'habit que riche de mine marchait à côté de la charrette. Il avait un grand emplâtre sur le visage qui lui couvrait un œil et la moitié de la joue, et portait un grand fusil sur son épaule dont il avait assassiné plusieurs pies, jets et corneilles qui lui faisaient comme une bandoulière au bas de laquelle pendaient, par les pieds, une poule et un oison qui avaient bien la mine d'avoir été pris à la petite guerre. Au lieu de chapeau, il n'avait qu'un bonnet de nuit entortillé de jarretières de différentes couleurs, et cet habillement de tête était une manière de turban qui n'était encore qu'ébauché et auquel on n'avait pas encore donné la dernière main. Son pourpoint était une casaque de grisette ceinte avec une courroie, laquelle lui servait aussi à soutenir une épée, qui était aussi longue qu'on ne s'en pouvait aider adroitement sans fourchette. Il portait des chausses troussées à bas d'attache, comme celles des comédiens quand ils représentent un héros de l'Antiquité, et il avait, au lieu de souliers, des brodequins à l'antique, que les boues avaient gâtés jusqu'à la cheville du pied. un vieillard vêtu plus régulièrement, quoique très mal, marchait à côté de lui. Il portait sur ses épaules une basse de viol, et parce qu'il se courbait un peu en marchant, on l'eût pris de loin pour une grosse tortue qui marchait sur les jambes de derrière. Quelque critique murmurera que la comparaison, à cause du peu de proportion qu'il y a d'une tortue à un homme, mais j'entends parler des grandes tortues qui se trouvent dans les Indes, et de plus je me sers de ma seule autorité, revenons à notre caravane. Elle passa devant le tripot de la biche, à la porte duquel étaient assemblées quantité des plus gros bourgeois de la ville. La nouveauté de l'attirail et le bruit de la canaille qui s'était assemblée autour de la charrette furent la cause que tous ces honorables bourgmestres jetèrent les yeux sur nos inconnus. Un lieutenant de prévôt, entre autres, nommé La Rapinière, les vint accoster et leur demanda avec une autorité de magistrat quels gens ils étaient. Le jeune homme dont je viens de parler prit la parole. Et sans mettre les mains au turban, parce que de l'une il tenait son fusil et de l'autre la garde de son épée, de peur qu'elle ne lui battît les jambes, lui dit qu'ils étaient français de naissance, comédiens de profession, que son nom de théâtre était le Destin, celui de son vieux camarade la Rancune, et celui de la demoiselle qui était juchée comme une poule en haut de leur bagage, la Caverne. Ce nom bizarre fit rire quelques-uns de la compagnie. Le vieux saltimbanque de Charles Baudelaire. Le vieux saltimbanque. Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités sur lesquelles, pendant un long temps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants pour compenser les mauvais temps de l'année. En ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le travail. Il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé, c'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Pour les grands, c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie, un répit dans la contention et la lutte universelle. L'homme du monde lui-même et l'homme occupé aux travaux spirituels échappent difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Ils absorbent sans le vouloir leur part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais en vrai parisien de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent à cette époque solennelle. Elle se faisait en vérité une concurrence formidable. Elle piaillait, beuglait, hurlait. C'était un mélange de cris, de détonations de cuivre et d'explosions de fusées. Les queues rouges et les jocrisses convulsaient les traits de leurs visages basanés, racornis par le vent, la pluie et le soleil. Ils lançaient avec l'aplomb des comédiens sûrs de leurs effets des bons mots et des plaisanteries d'un comique solide et lourd comme celui de Molière. Les Hercules, fiers de l'énormité de leurs membres, sans front et sans crâne, comme les orang-outans, se prélassaient majestueusement sous les maillots lavés la veille pour la circonstance. Les danseuses, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et cabriolaient sous le feu des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles. Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte. Les uns dépensaient, les autres gagnaient, les uns et les autres également joyeux. Les enfants se suspendaient aux jupons de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre ou montaient sur les épaules de leur père pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête. Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si honteux il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d'homme, adossé contre un de ces poteaux de la cahute. Une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelle coulante et fumant éclairaient trop bien encore la détresse. Partout la joie, le gain, la débauche, partout la certitude du pain pour les lendemains, partout l'explosion frénétique de la vitalité, ici la misère absolue. La misère affublée pour comble d'horreur de haillons comiques, où la nécessité, bien plus que l'art, avait introduit le contraste. Il ne riait pas, le misérable. Il ne pleurait pas. Il ne dansait pas. Il ne gesticulait pas. Il ne criait pas. Il ne chantait aucune chanson, ni gaie, ni lamentable. Il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé. Il avait abdiqué. Sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère. Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie. Et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber. Que faire ? À quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il avait à montrer dans ces ténèbres puantes derrière son rideau déchiqueté ? En vérité, je n'osais. Et dû la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerai que je craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant quelque argent sur une de ses planches, espérant qu'il devinerait mon intention, quand un grand reflux du peuple, causé par je ne sais quel trouble, m'entraîna loin de lui. Et, m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur, et je me dis: je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer.
Les comédiens, on dit souvent, savants du vent, à la sauvette, ils vont de scène en scène et partent en tournée. Et dès qu'ils sont vêtus des habits qu'on leur prête, ils deviennent Jésus, Harpagon ou Hamlet. Les comédiens ne seraient rien sans les lumières. Et comme ils veulent plaire et veulent être aimés, ils jouent même en plein jour, comme disait Molière, devant que les chandelles aient été allumées. Les comédiens, disent les gens, c'est plus changeant que Girouette. Ils jouent avec le mal, ils jouent avec le bien. Ils versent de vrais pleurs ou font la pirouette. Ils ont de faux bonheurs, ils ont de faux chagrins. Les comédiens, quand le soir vient, se reconnaissent. Ils savent qu'ils existent au creux de leur miroir, lorsque le fond de teint leur rend une jeunesse, qu'ils démaquilleront vers minuit moins le quart. Les comédiens, disent les gens, ont bien souvent des amourettes. À force de jouer, ils se prennent au jeu. sans être Roméo, on sait prendre Juliette. Juste le temps qu'il faut pour en souffrir un peu. Les comédiens, quand l'âge vient, quittent la scène. Et quand il leur advient de vivre de longs jours, sur cour ou sur jardin, tout seul ils se souviennent de ce fichu métier qu'ils ont aimé d'amour.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après notre pause musicale habituelle, nous revenons, si vous le voulez bien, à notre vagabondage dans les textes qui évoquent en particulier les bohémiens et les comédiens en voyage. Et voici pour ce soir un extrait du fameux roman de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, qui nous raconte la mort du comédien Matamor, un des personnages de la Commedia dell'arte. La tempête augmentait. Chassée par le vent, la neige courait en blanche fumée rasant le sol et ne s'arrêtait que lorsqu'elle était retenue par quelque obstacle, revers de tertre, mur de pirail, clôture de haies, talus de fossés. Là, elle s'entassait avec une prodigieuse vitesse, débordant en cascade de l'autre côté de la digue temporaire. D'autres fois, elle s'engouffrait dans le tournant d'une trombe et remontait au ciel en tourbillon pour en retomber par masse, que l'orage dispersait aussitôt. Quelques minutes avaient suffi pour poudrer à blanc, sous la toile palpitante de la charrette, Isabelle, Séraphine et Léonarde. Quoiqu'elles se fussent réfugiées tout au fond et abritées d'un rempart de paquets. Ahuri par les flagellations de la neige et du vent, le cheval n'avançait plus qu'à grand-peine. Il soufflait. Ses flancs battaient et ses sabots glissaient à chaque pas. Le tyran le prit par le bridon et marchant à côté de lui, le soutint un peu de sa main vigoureuse. Le pédant, Cigognac et Scapin poussaient à la roue. Léandre faisait claquer le fouet pour exciter la pauvre bête. La frapper eût été cruauté pure. Quant au Matamor, il était resté quelque peu en arrière, car il était si léger, vu sa maigreur phénoménale, que le vent l'empêchait d'avancer. Quoiqu'il eût pris une pierre en chaque main et rempli ses poches de cailloux pour se lester. Cette tempête neigeuse, loin de s'apaiser, faisait de plus en plus rage et se roulait avec furie dans les amas de flocons blancs qu'elle agitait en mille remous comme l'écume des vagues. Elle devint si violente que les comédiens furent contraints, bien qu'ils eussent grande hâte d'arriver au village, d'arrêter le chariot et de le tourner à l'opposite du vent. La pauvre rosse qui le traînait n'en pouvait plus. Ses jambes se raidissaient. Des frissons couraient sur sa peau fumante et baignée de sueur. Un effort de plus et elle tombait morte. Déjà, une goutte de sang perlait dans ses naseaux largement dilatés par l'oppression de la poitrine, et des lueurs vitrées passaient sur le globe de l'œil. « Où donc est Matamor ?» dit Blasius. « Est-ce que par hasard, le vent l'aurait emporté dans la lune ?»« En effet, ajouta le tyran, on ne le voit point. » Il s'est peut-être blotti sous quelque décoration au fond de la voiture. Ohé, Matamor, secoue tes oreilles si tu dors et réponds à l'appel. Matamor n'eut garde de sonner mot. Aucune forme ne s'agita sous le monceau de vieilles toiles. Ohé, Matamor, beugla itérativement le tyran de sa plus grosse voix tragique et d'un ton à réveiller dans leur grotte les sept dormants avec leurs chiens. Nous ne l'avons pas vu, dirent les comédiennes, et comme les tourbillons de neige nous aveuglaient, nous ne nous sommes point autrement inquiétés de son absence, le pensant à quelques pas de la charrette. Bah, diantre, fit Blasius, voilà qui est étrange, pourvu qu'il ne lui soit point arrivé malheur. Sans doute, dit Cigogna, qu'il se sera, pendant le plus fort de la tourmente, abrité derrière quelque tronc d'arbre. Et il ne tardera pas à nous rejoindre. On résolut d'attendre quelques minutes, lesquelles passées, on irait à sa recherche. Rien n'apparaissait sur le chemin, et de ce fond de blancheur, quoique le crépuscule tombât, une forme humaine se fût aisément détachée, même à une assez grande distance. La nuit qui descend si rapide aux courtes journées de décembre était venue, mais sans amener avec elle une obscurité complète, la réverbération de la neige combattait les ténèbres du ciel, et par un renversement bizarre, il semblait que la clarté vint de la terre. L'horizon s'accusait en lignes blanches et ne se perdait pas dans les fuites du lointain. Les arbres enfarinés se dessinaient comme des arborisations dont la gelée étame les vitres, et de temps en temps des flocons de neige secoués d'une branche tombaient pareils aux larmes d'argent des draps mortuaires sur la noire tenture de l'ombre. C'était un spectacle plein de tristesse. Un chien se mit à hurler au perdu, comme pour donner une voix à la désolation du paysage et en exprimer les navrantes mélancolies. Parfois il semble que la nature, se lassant de son mutisme, confie ses peines secrètes aux plaintes du vent ou aux lamentations de quelque animal. On sait combien est lugubre dans le silence nocturne cet aboi désespéré qui finit en râle et que semble provoquer le passage de fantômes invisibles pour l'œil humain. L'instinct de la bête en communication avec l'âme des choses pressent le malheur et le déplore avant qu'il soit connu. Il y a, dans ce hurlement mêlé de sanglots, l'effroi de l'avenir, l'angoisse de la mort et l'effarement du surnaturel. Le plus ferme courage ne l'entend pas sans être ému, et ce cri fait dresser le poil sur la chair comme ce petit souffle dont parle Job. L'aboi, d'abord lointain, s'était rapproché, et l'on pouvait distinguer au milieu de la plaine, assis le derrière dans la neige, un grand chien noir qui, le museau levé vers le ciel, semblait se gargariser avec ce gémissement lamentable. Il doit être arrivé quelque chose à notre pauvre camarade. Cette maudite bête hurle comme pour un mort. Il faut aller le chercher sans plus attendre, avec la lanterne dont la lumière lui servira de guide et d'étoile polaire s'il s'est égaré du droit chemin et vague à travers champs. Car en ces temps neigeux qui recouvrent les routes de blancs linceuls, il est facile d'errer. Ils firent ainsi près d'un quart de lieue, élevant la lanterne pour attirer le regard du comédien perdu et criant de toute la force de leurs poumons « Matamor ! Matamor ! Matamor !» À cet appel, semblable à celui que les anciens adressaient aux défunts avant de quitter le lieu de sépulture, le silence seul répondait, ou quelque oiseau peureux s'envolait en glapissant avec une brusque palpitation d'ailes pour s'aller perdre plus loin dans la nuit. Parfois un hibou offusqué de la lumière piaulait d'une façon lamentable. Enfin, Cigognac, qui avait la vue perçante, crut démêler à travers l'ombre, au pied d'un arbre, une figure d'aspect fantasmatique, étrangement raide et sinistrement immobile. Il en avertit ses compagnons qui se dirigèrent avec lui de ce côté en toute hâte. C'était bien, en effet, le pauvre Matamor. Son dos s'appuyait contre l'arbre et ses longues jambes étendues sur le sol disparaissaient à demi sous l'amoncellement de la neige. Son immense rapière qu'il ne quittait jamais faisait avec son buste un angle bizarre et qui eût été risible en toute autre circonstance. Il ne bougea pas plus qu'une souche à l'approche de ses camarades. Inquiété de cette fixité d'attitude, Blasius dirigea le rayon de la lanterne sur le visage de Matamor. Et il faillit la laisser choir tant ce qu'il vit lui causa d'épouvante. Le masque ainsi éclairé n'offrait plus les couleurs de la vie. Il était d'un blanc de cire. Le nez pincé aux ailes par les doigts noueux de la mort luisait comme un os de seiche. La peau se tendait sur les tempes. Des flocons de neige s'étaient arrêtés aux sourcils et aux cils, et les yeux dilatés regardaient comme deux yeux de verre. À chaque bout des moustaches scintillait un glaçon dont le poids les faisait courber. Le cachet de l'éternel silence scellait ses lèvres, d'où s'étaient envolées tant de joyeuses rodomontades. Et la tête de mort sculptée par la maigreur apparaissait déjà à travers ce visage pâle où l'habitude des grimaces avait creusé des plis horriblement comiques que le cadavre même conservait. Car c'est une misère du comédien que chez lui le trépas ne puisse garder sa gravité. Nourrissant encore quelque espoir, le tyran essaya de secouer la main de Matamor, mais le bras déjà raide retomba tout d'une pièce avec un bruit sec, comme le bras de bois d'un automate dont on abandonne le fil. Le pauvre diable avait quitté le théâtre de la vie pour celui de l'autre monde. Cependant, ne pouvant admettre qu'il fût mort, le tyran demanda à Blasius s'il n'avait pas sur lui sa gourde. Le pédant ne se séparait jamais de ce précieux meuble. Il y restait encore quelques gouttes de vin et il en introduisit le goulot entre les lèvres violettes du matamor. Mais ses dents restèrent obstinément serrées et la liqueur cordiale rejaillit en gouttes rouges par les coins de la bouche. Le souffle vital avait abandonné à jamais cette frêle argile, car la moindre respiration eût produit une fumée visible dans cet air froid. « Ne tourmentez pas sa pauvre dépouille, » dit Sigognac. « Ne voyez-vous pas qu'il est mort ?»« Pauvre Matamor, te voilà désormais à l'abri des nazards de croquignoles, coups de pieds et de bâtons, à quoi t'obligeaient tes rôles. » Personne ne te rira plus au nez. Voilà, nous avons terminé pour ce soir ces lectures en liberté que nous retrouverons demain avec d'autres textes. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.